toujours avec les oreilles loin du front. C'est bien, après s'être un peu explosé les tympans, on va s'intellectualiser un peu avec notre petit sujet sur, sur les mouvements altermondialistes et qu'est-ce que ça devient et comment c'est né et où on va exactement. Donc on va écouter dans un premier temps Bernard Pinault, qui est donc délégué du CRIN. C'est le Centre de Recherche et d'Information sur le Développement. C'est lui qui a travaillé, qui était en partie un des organisateurs de toutes les manifestations contre le G8 à Annemasse, où nous étions d'ailleurs, et qui s'occupe du FSM, qui a travaillé à Mumbai et à Porto Alegre. Et donc là, il revient sur l'historique des mouvements altermondialistes de Seattle au dernier Forum social mondial de Mumbai.
L'éveil d'une conscience planétaire, donc c'est le titre de notre débat. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une conscience planétaire? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une opinion publique mondiale? Peut-on dire qu'il y a une société civile à l'échelle internationale? Bon, bien évidemment, cela semble un petit peu excessif de pouvoir employer ces expressions-là à l'échelle de la planète. Néanmoins, comme nous l'a dit Hélène, citoyenne du monde, pour moi, ça veut dire quelque chose, ce ne sont pas des mots. Donc, de fait, il se passe quelque chose à l'échelon international, à l'échelon planétaire, aujourd'hui. Sidi Kikaba a nous rappelé que le 15 février 2003, plus de 10 millions de personnes étaient dans la rue, dans 60 capitales du monde au même moment, et dans 600 villes, pour dire non à la guerre en Irak. C'est un événement absolument unique dans l'histoire de l'humanité, de la société civile à l'échelon planétaire, qu'un tel moment ait eu lieu, au même moment justement, à l'échelon de la planète. Alors, évidemment, 10 millions de personnes, c'est dérisoire par rapport aux 6 milliards et quelques millions d'habitants de la planète, mais il n'empêche, c'est quand même la manifestation que quelque chose bouge et que des éléments d'une société civile à l'échelon international sont en train d'émerger. Alors, cette émergence d'une société civile à l'échelon international sur la scène mondiale est un fait qui ne doit rien au hasard, qui est le fruit d'un parcours de plusieurs années. Certains le font remonter à Seattle, d'autres le font remonter au sommet de la Terre à Rio, et d'autres le font remonter plus loin dans l'histoire. Ce mouvement que d'aucuns appellent le mouvement altermondialiste est en fait un mouvement peu structuré, hétérogène, mouvant, et il s'exprime de différentes manières. Et nous allons d'ailleurs avoir des témoignages sur ces différentes manières. Ça s'exprime par des manifestations altermondialistes qui se succèdent maintenant depuis Seattle, en décembre 1999, lors du sommet de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, pas une rencontre, pas un sommet du G7-G8, pas une assemblée générale de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, pas une rencontre ministérielle de l'OMC qui se déroule sans que des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ne descendent dans la rue pour exprimer leur rejet du modèle néolibéral et leur aspiration pour un monde plus juste et solidaire. Alors, ça a même cumulé et culminé avec cette manifestation que les médias d'ailleurs ont appelé pour la première fois la manif monde du 15 février 2003. Donc ça, c'est l'une des expressions de ce mouvement. Une autre expression, ce sont les forums de la société civile parallèles aux rencontres internationales et qui sont complémentaires, d'une certaine manière, de ces manifestations de rue. Dans ces forums, les acteurs de la société civile, en particulier les ONG, explicitent les propositions d'alternatives au modèle néolibéral dominant, comme ce fut le cas donc lors du sommet pour un autre monde à Annemasse, en parallèle du G8 déviant. Mais Jorge nous a dit que ça avait été la même chose pour la rencontre de la CNUSED au Brésil. Deuxième modalité d'expression de ce mouvement altermondialiste, de cette société civile à l'échelon international. Troisième modalité d'expression, des campagnes citoyennes internationales. Pour la refonte des règles de l'OMC, il y a eu, par exemple, cette mobilisation sur l'accord multilatéral sur l'investissement qui s'était manigancée, je dirais, à partir de l'OCDE de la manière la plus obscure possible à partir de 1995 et qui a été bloquée dès 1997-1998 en particulier par la mobilisation des personnes. Des campagnes pour la réforme des institutions financières internationales, pour l'augmentation de l'aide publique au développement. On a donc entendu la campagne sur la Cour pénale internationale, celui qui nous disait que c'était plus de 2000 organisations qui se sont mobilisées pour, d'une certaine manière, imposer la création de cette Cour pénale internationale. Il y a eu la mobilisation pour l'arrêt de la construction des mines antipersonnelles. Ces campagnes rassemblent des centaines de milliers de citoyens à travers le monde. La campagne pour l'annulation de la dette, par exemple, a récolté 24 millions de signatures émanant de 162 pays différents. La pétition la plus importante de l'histoire de l'humanité. Troisième expression de cette société civile internationale. Et enfin, la quatrième, c'est les forums sociaux mondiaux et maintenant leur décomposition au niveau continental, par pays, voire forums sociaux locaux. Alors ça démarrait cette aventure à Porto Alegre en 2001. Et on en est à celui de Mumbai, 100 000 personnes à Mumbai en 2004. Ces forums, comme je le disais, se sont démultipliés, forums sociaux continentaux, nous avons accueilli en France le forum social européen 2003 à Paris-Saint-Denis au Minifri, des forums sociaux nationaux et maintenant une multitude, en particulier en France, de forums sociaux locaux. Les forums sociaux sont des moments forts d'expression de cette société civile internationale et de ses propres propositions d'alternatives. Ce sont aussi des moments clés d'articulation entre des acteurs de la société qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer et de se mobiliser ensemble. Et c'est peut-être ce qui est vraiment nouveau. C'est la convergence de différents acteurs qui, jusque-là, menaient des combats de manière parallèle. Ce qui était dispersé se met à converger. Voilà, indéniablement, une conscience citoyenne planétaire est en train d'émerger. Vrai contre-pouvoir citoyen. C'est encore bien balbutiant sur de nombreux sujets, influent sur d'autres, dans ce qu'on peut appeler l'espace public mondial.
Donc là, oups, c'est un peu rude comme descente, mais juste, il nous parlait donc de Seattle, de Mumbai, et bien on va revenir au premier forum social mondial à Porto Alegre.
Brasil! Cuba! França!
México!
Senegal!
Porto Alegre!
Un autre monde est possible.
Un autre monde est possible.
D'autres mondes sont possibles.
Au Forum social mondial qui nous réunit ici, neste espaço da América Latina, do Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, tem significado para a humanidade que certamente ainda não podemos aquilatar e dimensionar.
Ce qui s'est passé à Porto Alegre est bien une étape nouvelle dans la contestation de la mondialisation libérale. À Seattle, en décembre 99, c'est une juxtaposition de noms qui l'avait emporté. Les manifestants, chacun à partir de ses préoccupations propres, et derrière eux l'opinion publique, avait dit le refus de la marchandisation du monde et le refus de l'Organisation mondiale du commerce. À Porto Alegre, en revanche, c'est une esquisse de convergence créée par les conditions même de la globalisation financière qui trouve sa première expression mondiale. Cette fois, l'objectif est d'affirmer que des alternatives existent.
Sans aucun doute, la démocratie participative est très importante pour les femmes, parce que les gouvernements traditionnels fonctionnent avec une structure complètement masculine.
Est-ce que vous pensez que le développement humain durable est conciliable avec la logique du marché? Franchement, l'état des lieux rend suffisamment compte du fait que ça ne marche pas, le modèle ne marche pas. Alors ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître l'échec du modèle. Quelle est la leçon de démocratie que vous êtes en train de nous donner? Une minorité de nantis, de gagnants d'une certaine globalisation, réunis à Davos. Alors, je pense aux chefs d'État du monde entier, et plus particulièrement à ceux d'Afrique, que vous jugez, vous estimez qu'ils sont corrompus, c'est des dictateurs. Et quelle est cette dictature à l'échelle de la planète? Et avec des acteurs privilégiés qui n'écoutent pas. Parce que nous ne pouvons pas vous croire sur parole.
Eu vejo o fórum, na verdade, de uma maneira não mítica.
En réalité, je vois ce forum comme d'une manière non mythique.
Uma parte, talvez, dos organizadores e uma parte da imprensa.
Une partie des organisateurs et de la presse.
Vê como uma espécie de virada positiva no milênio.
Le voit comme une sorte de virage positif du millénaire.
Eu vejo como um forte elemento político.
Moi, je le vois comme un fort élément politique.
Para uma mudança na cultura política da globalização.
Vers un changement de la culture politique de la mondialisation.
Porque é necessário construir por dentro dessa cultura nova.
Parce qu'il est nécessaire de construire à l'intérieur de cette nouvelle culture.
As alternativas políticas e organizativas.
Des alternatives politiques et organisatrices.
Para um enfrentamento com o grande capital.
Afin de pouvoir affronter le grand capital.
Porque não há possibilidade de mudança na ordem global.
Il n'y a pas de possibilité de changement dans l'ordre mondial.
Somente pela mudança na consciência das pessoas.
Uniquement à travers un changement de la conscience des gens.
On fait crever comme ça des millions de paysans.
Ça suffit comme si.
Non, si, pero vos lo vas a ver. Cuando veas un tumulto de cámaras, está vos ver.
Une joyeuse désorganisation très anard et très agréable. Quoi.
Que es donde está comiendo Sebastián Salgado, que es un invitado especial.
Vous connaissez aujourd'hui à 100 familles.
Dans 100 familles, 33 forment une coopérative.
33 font partie de la coopérative.
Monde, monde est possible.
L'arrogance des puissants est inacceptable, insupportable.
Ils vous informent, na verdade, de uma maneira.
Señores.
Messieurs, vous luttez contre nous. Messieurs, vous êtes nos ennemis. Vous êtes hypocrites dans vos réponses. Répondez. Combien d'enfants meurent par jour à cause de vos plans? Combien de mères doivent attendre la mort à cause de la mondialisation ou du capitalisme? Répondez. Vous êtes comme des monstres. Vous mangez tout. Vous avez la tête et un ventre bien rempli, mais pas de cœur. Comme mère, je vous demande combien d'enfants vont mourir. Monsieur Soros, avec votre tête d'hypocrite, souriant, rigolant, avant la mort de milliers d'enfants. Répondez, Monsieur Soros. Regardez-moi bien.
D'autres mondes sont possibles.
Un autre monde est possible.
Un autre monde est possible.
des alternatives existent.
D'autres mondes sont possibles.
L'arrogance des puissants est inacceptable, insupportable.
De Porto Alegre à Mumbai, nous allons écouter maintenant un membre du Parti communiste indien qui était venu donc au colloque de la coordination sud et qui nous raconte comment lui, il est arrivé et les difficultés aussi qu'il a eues à fédérer tous les gens en Inde pour organiser le Forum social, mondial à Mumbai. C'est pas facile à dire.
Je suis Pidimurti, syndicaliste en Inde. Il se fait que j'étais aussi parmi le comité des organisateurs du Forum en Inde à Mumbai. Et je peux dire en juste en quelques mots ce que nous vraiment avons non seulement appris, mais pouvoir accomplir par ce forum. Parce qu'il y avait Seattle, il y avait Gothenburg, il y avait Venise et Paris. Puis on est pour Porto Alegre et on est arrivé à Mumbai. Ben, c'est changé. Les dimensions ont changé, non pas parce que nous sommes un pays de la lumière, mais aussi la qualité. À part pour la quantité, la qualité, c'est qu'on a été vraiment de tous les points de l'Inde, de toutes les tendances politiques et non politiques, des ONG, des mouvements sociaux, des mouvements populaires. Généralement, chez nous, les mouvements sociaux ou les mouvements populaires, comme les syndicats, nous, on ne travaille pas ensemble avec d'autres mouvements, que ce soit des femmes, des environnements ou des Dalits, et surtout pas les ONG. Mais le forum, lui, a apporté ça, a changé cela, que beaucoup d'entre nous avons senti au début, parce qu'on avait un forum qu'on avait organisé, le forum d'Asie à Hyderabad. La même année, la réunion d'avril 2003, on a essayé de voir si était possible de faire ça. Et quand on s'est inscrit, on a commencé à mobiliser, on a trouvé qu'il y a eu beaucoup qui avaient non seulement été intéressés, mais voulaient participer. On n'était pas parti de 8 comme à Porto Alegre, on était 85 organisations de toutes tendances qui étaient venues pour mettre à pied le Forum d'Asie. Et plus tard, après le Forum d'Asie, où il était possible, on a vu que tout possible, on invite le Forum social mondial, on a accepté cette proposition du Brésilien et du Forum du Comité international, et au Forum en Inde, c'était pas seulement la quantité, mais c'était la diversité. La diversité au sens que il y avait des Gandhiens politiques, je parle du point de politique, des gens qui sont Gandhiens, des Ambedkarites, des socialistes, des communistes, et des gens qui étaient tout juste des libéraux. Et aussi beaucoup d'ONG qui étaient avec des mouvements populaires ou des centres de recherche. Mais tout le monde était là pour dire non à la mondialisation. Il était là pour dire, on a exprimé de manière différente, parce que chez nous, on a nos manières d'exprimer ce refus à cette mondialisation. On avait pas seulement des débats, on était dans les avenues, on était dans les rues, on avait nos banderoles, et on a dit, disons d'une manière très forte, que pourquoi on refusait. C'était là, le peuple était là, c'était toute les couches sociales. Et chez nous, par exemple, dans le système de caste, il y a parmi les opprimés, les plus opprimés. Et eux, ils étaient là, ils s'affirmaient que, j'entendais juste, par exemple, les droits humains, par exemple, nous, on se dit une démocratie, quand on considère ça, le système de caste, ça existe toujours chez nous. Donc, le forum, lui, a mis en place cette question, parce que le racisme, ça se comprend, mais le système de caste, je ne crois pas qu'on arrive à le comprendre, pourquoi il existe. Donc, je ne prends pas de temps Je serai là pour quelques temps. Donc si il y a des questions, j'essaierai d'intervenir, d'échanger mes vues avec d'autres amis qui seront intéressés à parler. Mais je crois, sans prendre du temps, je crois que par le forum, cette fusion, ce besoin de vivre ensemble face à cette mondialisation aujourd'hui que nous impose les puissances les plus fortes du monde, ben je crois que le peuple, comme vous disiez, les citoyens du monde, on a un besoin de vivre ensemble. Merci.
¿Están muy angustiados? Pero no. ¿Por qué? Tienen tiempo hasta de formar improvisadas orquestas.
Al patito lo llevaron detenido al Nacional. Al patito lo llevaron detenido al Nacional. Y el patito así decía, el lunes por la mañana me llevaron prisionero. El patito chiquito no quiere ir al mar porque en agua salada no sabe nada. El patito chiquitito no quiere ir al mar porque en agua salada no sabe nada. Al patito lo pasaron por la puerta recepción. Al patito lo pasaron por la puerta recepción. Y el patito así decía, yo no soy de aquí y no tengo edad. Yo soy inocente, digo la verdad.
Et oui, ils disent la vérité d'une certaine façon. Donc on était au Forum Social Mondial, nous avons été à Seattle, un peu partout. Et donc là, on va aller voir du côté d'Handicap International et de Philippe Chabas, qui est donc un des coordinateurs d'Handicap, et qui va nous parler de la mobilisation qu'il y a eu contre les mines antipersonnelles et comment ils sont arrivés à leur fin.
Donc, la prolifération des mines antipersonnelles, c'était un problème que personne ne connaissait au début des années 90. Mobilisation d'un certain nombre d'ONG de terrain, au départ, découverte, on connaissait le problème, mais découverte réelle internationale du problème avec la paix au Cambodge en 92, donc il y a 12 ans. La signature d'un traité international d'interdiction totale en 97, et aujourd'hui, un traité international qui interdit la fabrication, la vente et l'utilisation des mines, signé par 150 pays, soit plus des deux tiers de la communauté internationale. Donc c'est un petit peu comment ce chemin a été parcouru dont je voulais vous parler ce matin. Je pense que cette campagne internationale rentre bien dans ce que Michel Boussin ce matin décrivait comme les stratégies d'acteurs, dans la mesure où ce ne sont pas les ONG toutes seules qui ont fait bouger les choses, mais c'est une association, un partenariat intelligent entre des ONG, des médias, donc l'opinion publique et un certain nombre de gouvernements. Les enseignements qu'on peut, les points principaux spécifiques à cette campagne, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça ne doit pas servir d'exemple à tout, c'est que il y avait un seul thème, un thème très très précis qui était dès le départ l'interdiction des mines antipersonnelles. Ça n'a jamais été présenté par personne comme un combat pour le désarmement général ou pour la paix dans le monde. C'était quelque chose qui s'inscrit d'une manière plus générale, mais la cible précise, spécifique, c'était l'interdiction des mines. Donc un seul thème. Deuxième élément, une coalition très très large. Parce que, et c'est l'autre spécificité, même si les mines antipersonnelles sont un des volets de l'armement mondial, le sujet peut être abordé par tout un tas de biais. Les mines antipersonnelles blessent et tuent des gens, effectivement, des hommes, des femmes, des enfants, mais elles sont aussi un obstacle à la reconstruction d'un certain nombre de pays. Tout ça pour dire qu'autour de ce thème des mines antipersonnelles, on a pu rassembler des associations d'aide humanitaire, des associations de défense des droits de l'homme, des associations qui travaillaient sur le droit international, sur le juridique, sur l'environnement. Donc, une coalition très très large, aussi bien au niveau thématique qu'au niveau géographique. L'autre point spécifique, et ça a été souligné ce matin, c'est que la coalition d'ONG Campagne internationale contre les mines, qui est partie d'une initiative de 6 associations dont Handicap International avait l'honneur de faire partie en 1992, aujourd'hui c'est une coalition qui rassemble plus de 1200 associations dans une centaine de pays. Donc avec un vrai effort qui a été fait depuis le départ pour être justement dans une logique de représentation non seulement du Nord et Sud, et cette participation des groupes, des ONG, des personnalités ou des individus des pays du Sud est un élément fondamental de cette campagne. Troisième spécificité, c'est que, en fait, même si ce sont les ONG qui ont porté le sujet en haut de l'agenda diplomatique, tout ce travail institutionnel de conception, de rédaction et de promotion d'un traité international n'a pu se faire que parce qu'il y a un certain nombre de gouvernements qui se sont engagés de façon volontariste dans l'initiative, en particulier le Canada, mais aussi la Norvège, l'Autriche, la Suisse. Et l'intelligence de ces pays, que la diplomatie française classique catégorise comme des pays de moyenne importance, je crois que leur intelligence, c'est justement d'avoir su saisir, c'est pour ça qu'on est dans la stratégie d'acteurs, les États en question avaient aussi leur stratégie, ils ont su saisir cette opportunité d'une dynamique de l'opinion publique pour prendre le leadership et savoir s'associer très rapidement avec d'autres pays que les grands pays n'avaient pas l'habitude de voir sur l'échiquier. L'aspect diplomatico-législatif du traité d'interdiction des mines a commencé à apparaître comme quelque chose de sérieux au sens de la diplomatie classique lorsque la coalition a dépassé les ONG mais aussi a dépassé les pays habituellement bien pensants en matière de l'évolution du droit international qui étaient les pays que j'ai cités, la Norvège, le Canada, l'Autriche, c'est les WASP qu'on a l'habitude d'identifier. Mais en fait, très rapidement, la coalition des pays, on a retrouvé des pays comme les Philippines, comme l'Afrique du Sud, le Mexique. Et donc là, les diplomates classiques étaient un peu perdus parce que ça ne correspondait pas à un modèle. On n'était plus dans le bien-pensant nord-européen, on était face à un animal nouveau. Et donc c'est cet animal nouveau, une dynamique de pays, une coalition d'ONG qui a permis d'obliger les États beaucoup plus réticents à s'asseoir autour d'une table pour rédiger et signer ce traité. Autre aspect, l'action pratique des ONG dans ce domaine-là, c'est bien résumé dans le papier introductif que vous avez sous la signature d'Henri Rouillé-Dorfeuille. Je crois qu'il y a trois types de mobilisation. En fait, les associations là-dedans apportent une expertise. Je pense que d'abord, la première clé, c'est l'expertise terrain, la connaissance et d'être capable d'apporter des témoignages pour les mettre en forme différemment en fonction des publics. Et donc, les publics qui sont listés sont, on fait de la caricature, mais il y a trois types de publics. Il y a l'opinion publique en général, le grand public, les gens qui signent des pétitions, donc qui sont accessibles à la fois par les médias en public, les événements et toutes ces manifestations et ces techniques de communication, je crois qu'il faut les appeler comme ça. Deuxième public, ce sont les réseaux militants. C'est pour ça que la richesse de la coalition permet d'avoir des réseaux militants divers. Ça va des réseaux des villes jusqu'aux réseaux politiques ou tout ce qui compte sur la surface de la planète. Et le troisième volet, c'est le contact direct avec les autorités politiques et diplomatiques qui, à un moment, se rendent bien compte que la légitimité de l'opinion publique et la connaissance, elle est du côté des ONG. Donc voilà un peu comment tout ça s'est construit. Pour conclure, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon et comme question pour l'avenir ? La première, c'est que, encore une fois, on a dû faire du droit, c'est bien, mais il faut qu'il soit appliqué. Donc la grande difficulté, c'est ce à quoi on fait face aujourd'hui, c'est que cette mobilisation doit se maintenir, et donc la campagne internationale contre les mines continue, et c'est difficile, il faut trouver du financement, il faut trouver encore des énergies, à surveiller l'application de ce traité. Donc tous les ans, c'est un rapport qui s'appelle le Landmine Monitor, qui est édité par la coalition, pour faire le point pays par pays du respect ou des violations des engagements pris dans le traité. Mais c'est aussi une mobilisation permanente nécessaire ici, dans nos pays, en particulier au niveau des bailleurs de fonds, parce que dès que la mobilisation s'arrête, les budgets diminuent, c'est très rapide. Hein, c'est la lutte contre les mines, électoralement, c'est pas vraiment très, très intéressant pour un pouvoir politique. Et donc, s'il n'y a pas des voix qui sont entendues à l'extérieur, les budgets disparaissent petit à petit. Deuxième enseignement, c'est que Cette campagne a bénéficié d'un timing particulier. J'ai dit 92 la naissance, 97 la signature du traité. C'était un moment où le grand envol de l'époque multilatérale, on avait l'impression que beaucoup de choses étaient possibles. Et peut-être aujourd'hui, on est en train de retomber dans un système plus rigide. Donc, vraisemblablement, le même type de dynamique ne pourrait pas forcément se reproduire aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui s'est peut-être reverrouillé entre un certain nombre d'acteurs et les coalitions de petits pays ou de moyens pays n'ont peut-être plus la même largesse d'action face à un certain nombre d'acteurs qui promeuvent l'unilatéralisme. Dernier élément, c'est pas non plus un modèle parce que ce type de coalition et de pression sur le gouvernement aujourd'hui, cette pression elle a existé parce qu'Internet, parce que des facilités dans le monde, parce que des compétences en termes de communication du côté des ONG, mais on peut très bien imaginer que le même type de pression soit fait, on l'a cité ce matin, par des sectes, par des mafias, c'est souvent le cas. Donc, encore une fois, une pression, les ONG sont un contre-pouvoir, mais à aucun moment ne se sont prises pour un pouvoir, et je crois que quand on pousse pour la signature de traité international, quelque part, on pousse aussi pour plus d'États. Ce ne sont pas les ONG qui font les traités, ce sont les États. Le rôle des ONG, c'est de pousser pour les signer, pour les respecter. Je voudrais répéter ça cet après-midi quand Edry sera là. Je vais bien voir. Je pense qu'il y a quelque part un appel à l'État pour ça. Et tout dernier élément pour conclure, une des grandes accusations qui nous a été faite souvent, c'était de dire que la campagne internationale, finalement, même si elle était très large, par les 90 pays, elle était quand même objectivement dirigée par des gens du Nord, parce qu'il y a un incontournable, c'est que l'argent il est dans le Nord et que pour se réunir, il faut payer des billets d'avion. Et donc c'est vrai que la coordination de cette campagne, même s'il y a des tas d'efforts qui ont été faits, il y avait 5 salariés dans la campagne internationale. À une époque, il y en avait un basé à Washington, un à Paris, il y en avait un à Maputo, un à Sarajevo, et un autre à Phnom Penh, donc il y avait une image comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique qui vient du Nord, mais je pense que ce qui est fort, ce qui restera dans les mémoires de tous les gens qui ont vécu cette campagne, c'est qu'au-delà des mines, je pense que ça a été dans beaucoup de pays un exercice de démocratie assez extraordinaire. Moi, j'ai des souvenirs de marches, de bonzes à Phnom Penh, de manifestations de rue à Kaboul pour demander l'interdiction des mines, ou de pétitions au Mozambique. Vous pouvez imaginer le Mozambique en 94-95, après les 15 ans de régime pas forcément très démocratique qu'ils avaient vécu, faire signer des pétitions dans la rue où les gens mettaient leur nom et leur adresse, et ces pétitions étaient portées à la présidente de la République. C'est vraiment un exercice d'ouverture à la démocratie, et je pense que ça a été exceptionnel, et ça continue à l'être à travers la dynamique de monitoring. Je ne sais pas, quand en Géorgie, un professeur d'université, représentant de la CDL, écrit au ministre de la Défense pour lui demander la justification de l'utilisation de ces stocks de mines, c'est un exercice de démocratie, de société civile en soi. Ça dépasse largement la question des mines. Donc, toutes ces raisons font que ça reste quelque chose qui doit rester à l'esprit, et encore une fois, la mobilisation, elle ne doit pas s'arrêter parce que c'est le concret qui doit l'emporter. Je conclue juste en disant que je vous ai parlé de la campagne internationale contre les mines, mais il y a une autre campagne qui est en train de naître sur le même modèle, avec au départ les mêmes acteurs, mais qui aujourd'hui a besoin de toutes vos énergies. C'est une campagne pour l'interdiction des armes à sous-munitions. C'est beaucoup plus compliqué techniquement, donc je n'ai pas lancé dans une explication. Mais ce sont des armes qui, au final, ont les mêmes effets que les mines, mais il a fallu créer une structure différente, puisque aujourd'hui, le contexte a changé, les pressions doivent être différentes.
Voilà, c'est un peu rude comme finale. Après tout cet optimisme avec les rencontres mondiales, les actions d'handicap international qui se sont bien terminées et qui ont servi à quelque chose, on va écouter un journaliste qui nous montre aussi quand même les limites de la mondialisation, essentiellement dues justement aux médias dominants.
Je voudrais d'abord tempérer l'optimisme de Bernard sur l'existence ou la nature d'une conscience planétaire aujourd'hui, et ensuite insister sur ce que disent Philippe et Bernard ensemble sur l'importance de ces nouveaux animaux, ces nouvelles stratégies d'acteurs qui peuvent englober pas seulement des alliances entre syndicats et ONG, entre partis politiques, mais bien plus. Et puis je vais utiliser mon identité journaliste quand même pour décrire l'importance du rôle des médias dans ce décor-là. Je suis journaliste depuis 28 ans. Et j'ai produit pas mal de films, j'ai créé deux agences de presse et deux ONG. Un peu, d'ailleurs, comment dire, je ne suis pas un théoricien ou un analyste, mais la pratique de mon métier de journaliste m'a souvent amené à prendre conscience de phénomènes dans cette interaction entre la réalité du monde, le rôle des ONG, les pouvoirs, les médias, où à chaque fois ça m'a amené à prendre du recul et à m'intéresser au-delà de la couverture des événements à cet espace public mondial mouvant. Aujourd'hui, je suis donc plus inquiet que Bernard sur cette conscience planétaire, pas seulement à cause de Bush et de Biden, mais parce que je crois, d'une part, que les médias dominants jouent un rôle terrible, et d'autre part, que la posture des ONG n'est peut-être pas assez avancée. Les médias dominants, je vais utiliser une comparaison, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand dans les années 70-80, les gens qui s'intéressaient à l'environnement poussaient un cri d'alarme sur l'état de la planète, ils étaient d'abord regardés comme des uberlus, puis comme des alarmistes, et puis finalement, leur message a été entendu. Mais je me souviens moi-même, quand je parlais avec Arte il y a 3 ans de faire quelque chose sur le réchauffement de la planète, on me disait, oh, c'est pas prouvé, à quoi ça sert de parler de ça. Il y a toujours dans les médias une sorte de résistance aux idées nouvelles. Et je crois que les cris d'alarme poussés sur le rôle des médias dominants au départ, des analystes présentés plutôt comme des gauchistes, en fait, aujourd'hui, on peut constater qu'en partie, ils avaient raison. Les médias dominants, donc les grands médias audiovisuels, ont des titres d'allégeance à des forces économiques très concentrées, à des pouvoirs politiques. Je le dis au jour le jour, quand je propose des films à des chaînes de télévision, des émissions, que va penser le gouvernement, que ce soit en France ou en Angleterre ou ailleurs. Il y a toujours cette allégeance politique aux médias audiovisuels. Et puis une allégeance, au fond, aux opinions en tant que serait majoritaire. On ne prend pas le risque de prendre l'opinion à contre-poids. De ce fait, vu ces ingrédients-là, et l'obligation aussi de la réussite du point de vue de l'audience, les médias dominants, je crois, contribuent non seulement à diviser le monde, mais à écraser les identités et à humilier les gens. Je crois que les sources de révolte jusqu'au terrorisme extrême résident non seulement dans la pauvreté, mais aussi dans la reconnaissance de l'identité de soi, dans une société, dans l'espace public mondial, que le village global, ce qu'il a de négatif, représente et symbolise. Donc, ma conviction, c'est aujourd'hui, parmi les typologies d'alliances, qu'il y en a une qui serait très importante, ce serait une alliance entre une société civile, si elle était vertueuse, elle n'est pas forcément, et des médias, je ne trouve pas le mot, plus qu'alternatifs, des médias différents, responsables, efficaces, et qui n'utiliseraient pas à utiliser les mêmes, qui n'utiliseraient pas à utiliser les mêmes outils que l'ennemi, les médias dominants. Parce qu'un média confidentiel, un média mal ficelé, où il n'y a pas de maîtrise du propos et du récit, ne s'adressait pas au plus grand nombre. Ça, je crois que c'est un nouveau combat à mener, important et possible. Maintenant, je voudrais illustrer un peu par 2-3 exemples que je viens de dire. Je vais vous raconter 3 histoires. L'une basée sur une étude. En Angleterre, depuis des années, une ONG qui s'appelle IBT a mené avec d'autres une étude sur la couverture des réalités du monde par les médias anglais. Et ce qu'on a vu depuis, je crois, 1994 à 2000, c'est que la BBC, par exemple, a diminué sa couverture des réalités du monde de 45%, toujours confondu, news, documentaire, fiction. Et à l'intérieur de ce qui restait de couverture, 80% était consacré à l'époque à l'Afrique du Sud, au conflit israélo-palestinien, et je ne sais plus quel autre conflit, je crois à l'ex-Union soviétique aussi. Channel 4, chaîne ex, comment dire, dont le mandat consistait à traiter des problèmes du monde, ou s'adresser aux minorités, qui maintenant est devenue une chaîne plutôt commerciale, pareil, avec sa couverture diminuée de 50%. En France, il n'y a pas d'études équivalentes. Moi, comme producteur et réalisateur, j'ai vécu pourtant dans les discussions avec des émissions, la garde artificielle, la garde spéciale ou les chaînes, le même phénomène. On disait, non, l'année prochaine, on va diminuer notre proportion de sujets internationaux de 30%, de moitié. Il y a un phénomène général. C'est-à-dire, je dis ces chiffres juste pour prendre conscience que ce n'est pas parce qu'il y a le satellite et l'idée d'un village global que la proportion d'informations qu'on a sur la suite du monde augmente, c'est pas vrai. En plus, la couverture est uniformisée. J'en viens maintenant à la posture des ONG. Je crains que pour les ONG isolées les unes des autres, n'ait été vécu comme des victoires le fait que le terrain sur lequel elles travaillent, ou l'organisation elle-même, on repasse à la télévision. Et moi, j'ai vécu ça, une caricature de ça à travers les ONG d'urgence, MSF, les Saints du Monde, où, surtout en France, vue de France, la collusion entre les médias, le gouvernement et cet humanitaire-là a créé une impression du développement humanitaire ravageuse. Ou en gros, parce que, je caricature à l'extrême, mais parce qu'on voyait Kouchner quelque part, en gros, le gouvernement français a réagi, l'opinion a été saisie, quoi. Mais ça allait beaucoup plus loin. L'MSF crée sa propre maison de production pour être sûr que les terrains qu'elle couvrait allaient passer à la télévision. Heureusement, j'y reviendrai tout à l'heure, Bernard l'indiquait, l'évolution générale du monde associatif, grâce à des choses comme le programme social mondial, permet qu'on passe d'une couverture, je dirais, organisationnelle et promotionnelle à mise en avant des idées. Donc je crois que les ONG doivent moins jouer sur la mauvaise conscience et plus contribuer à la prise de conscience de l'état du monde. Autre exemple, j'ai produit, pendant le siège de Sarajevo, réalisé, pas tout seul, mais plein de gens, une chronique documentaire quotidienne dans une rue. C'était un an et demi après le début du siège, et mon idée c'était que des documentaires où le sujet nous écrasait, ce que vivaient les habitants de Sarajevo, les réduisaient à juste des victimes anonymes ou à un autre Kurdistan, et qu'il fallait trouver une manière de recréer du lien. Donc l'idée que j'avais eu, c'était de faire quelque chose de quotidien, comme pour les otages au Liban, français au Liban, les otages américains au Liban. Et après, de produire le jour même pour le spectateur européen, en gros, au fil des jours, vivre une synchronicité avec la vie des habitants de cette rue, et prennent conscience politiquement que les habitants de Sarajevo eux-mêmes étaient lucides sur ce qui leur arrivait et avaient d'autres demandes que l'envoi de couvertures et de médicaments. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'une part, deux, trois anecdotes, mais enrichissantes. D'une part, Arte, Bernard Lévy, essayait de transformer ça en une production où on allait l'accompagner lui à Sarajevo tous les jours avec ses copains écrivains européens et pas du côté du début des gens. Reporter sans frontières, dans notre dos, à l'époque j'étais un bon jour, a négocié un contrat avec Arte où tous les jours il y aurait envoyé vos dons à Reporter sans frontières derrière les chroniques. Et c'est un délire avec Ménard parce que c'était, le but était inverse, c'était que justement on sorte de cette spirale de l'émotionnel et du chèque pour que les gens, les spectateurs, se disent qu'il y a une réalité sur laquelle on peut agir, mais politiquement. On peut mettre la pression sur le gouvernement, sur la communauté européenne, mais il faudrait sortir de cette interaction entre une belle vie du monde et le don, et aller vers la prise de conscience. On a fait ça pendant 5 mois. Bon, en Angleterre, ça passait sur la BBC tous les soirs, et c'était cité souvent à la Chambre des communes, et c'est devenu un phénomène politique. Mais à un moment donné, la BBC a dit qu'il faut arrêter, on dit qu'il faut arrêter, le siège n'était pas terminé, mais sinon, quand elle s'arrêtera. Ils ont dit de la BBC qu'elle s'engage à reprendre, qu'il y ait la paix ou que la guerre continue. Et en décembre 1994, j'avais un engagement de la BBC de reprendre en janvier 1995, et un jour, dans le mi-décembre, le directeur de la BBC, bon, il s'appelle Michael Jackson, mais c'est un homonyme, vous allez voir son centre spectacle, me dit « J'ai entendu à la radio qu'il y avait un cessez-le-feu là à Sarajevo, donc on ne va pas le faire. » Parce que ça avait été un hit, la première série, et donc on va se permettre que ça fasse moins bien en audience. Donc le fait qu'il n'y ait peut-être pas de bombardement pendant la semaine, enfin les 15 jours qui allaient suivre dans la rue à Sarajevo, m'incitait à se retirer du projet, s'est retiré. C'est pour vous dire que même les grands médias de service public, je pourrais raconter des histoires sur France 2, Arte, sur d'autres productions, je vais m'arrêter là sur ce type d'exemple, n'ont pas une grande conscience de leur rôle dans la société, locale ou globale. En janvier 2001, j'ai produit un dialogue par satellite entre Davos et Porto Alegre. Je crois que j'ai terminé à faire ça parce que je trouvais que le sujet de la mondialisation n'était pas traité comme il devrait l'être par les grands médias. Et de fait, je me suis retrouvé, pour créer les conditions du dialogue, à faire un travail de médiation, d'ONG, qui m'a amené plus tard à créer Bridge Initiative. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je me suis un peu heurté à des critiques de mes confrères, collègues, en gros, de quoi je me mêlais. Enfin, ils ne comprenaient pas que, en gros, on peut comparer les enjeux globaux aujourd'hui aux enjeux nationaux d'hier et d'aujourd'hui, où les médias essayent de contribuer à créer les conditions de dialogue entre des acteurs en conflit, du style des hommes politiques. Donc, il me paraissait légitime de faire en sorte que Davos et Porto Alegre dialoguent sur les enjeux qui sont pareils. La réalité des choses, ça a été que Davos, avec qui j'étais en discussion pendant 2 mois, a demandé un droit de veto sur le contenu du dialogue avant qu'il ne passe à la télévision. Et donc, je dis non. Je me suis retrouvé tout seul, un tout petit peu soutenu par Arte, à produire ce dialogue où Bernard était, et puis Porto Alegre, et qui a peut-être joué un rôle à l'époque. C'est quand même important, les médias, pour toute force, hein, pour que Porto Alegre existe sur la carte de l'espace public mondial dès sa naissance. Depuis, j'ai donc été amené à continuer ce travail-là, de manière un peu informelle et artisanale au début, où ça me paraissait important de continuer à créer les conditions du débat public pour que les citoyens soient mieux informés des enjeux et que la mondialisation ne soit pas réduite à l'image de quelques manifestants, quelques policiers, ou à des débats uniquement spectaculaires. Et en effet, j'ai créé cette ONG qui, pour l'instant, a mis sur pied une quinzaine de débats à Stockholm, à Monterey, à Porto Alegre, à Bombay, à Washington, au FSE l'an dernier, entre ces acteurs en conflit de la mondialisation qui, avant, ne dialoguaient pas vraiment. En faisant cela, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'espace ou de lieux où ces acteurs en conflit pouvaient envisager la possibilité de découvrir des points d'accord qui contribueraient à changer les réalités du monde, qu'il s'agisse de la dette, de l'agriculture, du système multilatéral lui-même. Les réunions qu'on organisait pour créer les conditions du dialogue public, en fait, devenaient comme des prises de contact pour un laboratoire de médiation où, en gros, la Banque mondiale prendrait conscience que, encore cette caricature, mais Beauvais n'est pas annexité, où le FMI, l'ONU, le PNUD, l'OMC prendraient conscience que le Forum social mondial est un lieu de réflexion, c'est un lieu où on se compte et on serre les rangs. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, de fait, depuis l'an dernier, on a vraiment constitué cette ONG avec un bureau, des membres et rechercher des soutiens pour pouvoir continuer de mener cette action de médiation. Ce qu'on fait maintenant, principalement cette année, sur deux chantiers, la question des subventions agricoles, de l'agriculture et du commerce, et celle de la réforme du système multilatéral. Ça m'amène ça à revenir, oui, je vais accélérer, sur cette idée des stratégies d'acteurs. Je suis convaincu qu'il est possible que les choses changent. Parce que justement, les acteurs qui se prenaient pour cible l'un l'autre, hier, sont en train de prendre conscience qu'ils ont intérêt à s'allier pour que les thèmes qui les concernent, même avec des approches différentes, hein, mais qui les concernent ensemble, Et j'ai vu depuis 3 ans comment, même entre la Banque mondiale, le FMI, l'ONC, pas les gouvernements membres, hein, mais les gens qui travaillent sur les enjeux, et l'expertise qui s'est développée, pas seulement au sein des ONG institutionnalisées, comme ça, je sais pas, l'ONG française, le CAD, à comprendre, mais cette société émergente depuis Seattle, là aussi, développer une expertise. Et je vois comment maintenant des points d'accord sont possibles. Enfin, on fait des réunions et on le voit, vraiment. On fait une réunion à Genève le 8 octobre avec tout le monde, les syndicats paysans. On voit déjà comment, sur la question des subventions, c'est clair, mais peut-être au-delà. Et je crois donc que, comme le disait Philippe, à condition de mettre l'opinion publique à travers une nouvelle approche des médias, en pesant sur les médias dominants, mais en générant de nouveaux contenus pour les médias en général, ou de nouveaux réseaux de production et diffusion, identifiés clairement pour l'opinion publique, en associant progressivement des gouvernements ouverts thématique par thématique à ce qui pourrait surgir sur la réforme du système multilatéral, c'est clair que, bon, la France, oui, le Brésil, la Chine, pour d'autres raisons, ont intérêt à ce que l'ONU change, à ce que la Banque mondiale change, à ce que le FMI change, à ce que la gouvernance globale change. Et donc, il est possible de peser sur la scène internationale en utilisant la pression de la société civile émergente, une manière de communiquer avec les médias, on les oblige à sortir de la caricature, et l'alliance ponctuelle avec certains gouvernements. Par nature, je dirais que les gouvernements qui, au début, ont empêché l'émergence des ONG, nouvelles, parce qu'ils disaient, ça c'est des anecdotes là-dessus aussi, ils disaient à la Banque mondiale, pourquoi vous discutez avec les ONG, ils ne sont pas élus représentants, ils ne sont pas légitimes. Vraiment, après 4 ans, plus, presque 5 ans après Seattle, on peut dire que seuls les ONG ou les organisations sociales expriment vraiment l'état des opinions à la faveur des peuples, parce que les gouvernements sont coincés dans le système multilatéral, dans des jeux géopolitiques. On prend ça, on reçoit ça, on fait du barrer sur des enjeux, ou coincés par leur souci de réélection prochaine. Et les gouvernements sont conscients, et les organismes multilatéraux en sont conscients. Henri était là à Sao Paulo quand Kofi Annan a dit à un forum de la société civile « Keep up the pressure, on a besoin de votre pression ». Lui qui était plutôt voué aux hégémonies par le Forum social mondial il y a 2 ans, maintenant, appelle la société civile à l'aide face aux pressions des conservateurs américains. Et ce que disait Jorge ce matin sur, les multilatérales et les ONG mises dans le même panier, presque liées au terrorisme par les conservateurs américains, c'est très très vrai. Si vous côtoyez les organismes multilatéraux, vous entendriez à quel point, pour eux, il s'agit autant de résister à la pression des néoconservateurs américains que d'avoir l'air de dialoguer avec la société civile. Donc, nouvelle alliance importante, et je reviens sur mon idée originale, celle du début de mon intervention, c'est que je ne sais pas comment faire, mais je crois qu'il est absolument vital, cette mise en réseau de la société civile participe d'un nouveau phénomène citoyen, où de nouvelles formes de médias verraient le jour, où des professionnels des médias très désabusés par le rôle des médias dominants travailleraient et arriveraient à des productions, des contenus communs, en se compromettant peut-être dans la manière de faire savoir que ces médias existent, mais c'est très important de saisir l'opinion publique autrement que ne le font les médias dominants, qui nous mènent à une conscience planétaire désastreuse.
Voilà, c'est fini. Écoutons justement les médias alternatifs avec FPP et on vous laisse dans les bras des Échos du Capricorne.
Y a pas de pays, si tu le veux.